6 Français sur 10 se sentent aujourd'hui concernés par la dépendance et la prise en charge du grand âge. 9 Français sur 10 jugent cette question prioritaire. 7 Français sur 10 jugent que la prise en charge actuelle du grand âge est totalement insuffisante. Voilà le résultat du 8e baromètre Odoxa France Inter consacré au grand âge, à la dépendance et au vieillissement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes donc. Les Français sont inquiets pour leurs proches, mais ils sont également inquiets pour eux-mêmes, notamment à la génération actuelle des 50-60 ans qui ne se voit pas terminer ses jours comme leurs parents dans une maison de retraite. Maison de retraite qui renvoie toujours une image très négative aux yeux du grand public. Prise en charge à domicile, placement en établissement médicalisé, alternance entre les deux. Quelle solution de progrès pour le grand âge et la dépendance? C'est le téléphone sonne sur France Inter. Intervenez jusqu'à 20h, un numéro, le 01 45 24 7000.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Et au standard, on retrouve Françoise qui nous appelle des Côtes d'Armor. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je suis infirmière dans le secteur, un secteur rural dans les Côtes d'Armor. Et j'aimerais évoquer avec vous une question qui m'interroge. On a installé dans les Côtes d'Armor, il y a des maisons qui sont installées, ça s'appelle les maisons perfagées. Donc ce sont des personnes qui hébergent chez eux des personnes âgées plus ou moins dépendantes. Et aujourd'hui, il me semble que c'est quand même une alternative à la maison de retraite. C'est beaucoup moins onéreux qu'une structure. Et les personnes y sont vraiment humainement très très bien. Et je m'aperçois qu'en fait, les collectivités territoriales, surtout le Conseil général, en général, ne suit pas par rapport aux aides, par exemple, les aides publiques qu'ils donnent aux personnes qui rentrent en structure collective. Alors je me pose la question, pourquoi les collectivités ne jouent pas le jeu? Parce qu'en plus, ça permettrait de revitaliser les petits bourgs ruraux et ça permettrait aussi de garder des gens au pays pour travailler, parce qu'on a quand même pas énormément d'emplois dans notre secteur. Donc pourquoi les collectivités territoriales ne jouent pas le jeu de ce genre de maisons, les maisons partagées, parce que c'est vraiment une très très bonne idée. Et vraiment, j'ai vu au quotidien, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Voilà, on pourrait mettre en place dans d'autres départements de France.
Merci Françoise qui nous appelait des Côtes d'Armor. Autour de la table pour vous répondre, Serge Guérin, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement. Philippe de Normandie, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de la dépendance, hein, professeur en traumatologie à la PHP. Et puis Gaël Slimane, bonsoir.
Bonsoir.
Président d'Odoxa, donc, qui vient de rendre public ce 8e baromètre. On va y revenir au cours de cette émission. Messieurs, Françoise qui évoque ce concept de maison partagée qui finalement a du mal à se financer. Serge Guérin.
Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives aujourd'hui, portées par exemple par le monde HLM, portées parfois par des collectivités territoriales, parfois portées par les gens eux-mêmes. Il y a par exemple près de Nantes le projet Habitage, qui est fait par des gens eux-mêmes qui disent on veut que nos plus âgés restent présents. Donc il y a plein d'initiatives, parfois elles sont soutenues par les pouvoirs publics, par les collectivités, parfois moins. Faut savoir que ces gens-là, s'ils ont des difficultés de perte d'autonomie, bénéficient d'aides du type APA, allocation personnalisée autonomie. Les APL peuvent les concerner. Donc il y a énormément d'aides déjà qui existent. La CNAV soutient aussi. Donc il faut aussi voir que la société est en train de bouger, comprend qu'il y a plusieurs solutions. D'ailleurs, on le voit très bien dans le sondage. Hein. Il y a à peu près un tiers des personnes qui disent « je voudrais par exemple une solution où de temps en temps je puisse aller ailleurs ». Donc on est en train de voir qu'entre le chez-soi et la maison de retraite médicalisée, les deux répondent à des besoins, mais il y a d'autres solutions qui existent pour d'autres besoins. On est plutôt dans un moment où ça bouge, par la société, par le bas, et en même temps, un petit peu aussi, par la moitié du haut, je dirais, celle des collectivités.
Alors, Gaël Slimane, c'est un des résultats de ce sondage, hein, de ce baromètre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a une génération qui s'inquiète, hein, la génération des 50-60 ans, qui s'inquiète de son propre avenir, parce qu'elle voit effectivement ses parents aller dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, et elle n'a pas envie de faire la même chose.
Oui, et puis on voit que chez les plus de 65 ans, vous avez cité, Stéphane, un certain nombre de chiffres sur l'inquiétude que ça générait chez Français, on est pour près des trois quarts de la population des plus de 65 ans qui s'inquiètent de ces questions de vieillissement les concernant. Donc c'est une inquiétude directe et c'est intéressant cette réaction de votre auditrice parce que quand on a réfléchi au questionnaire avec nos partenaires, avec la MNH, avec la FHF, avec Orange Healthcare, on s'est dit, bah voilà, on va proposer l'alternative, rester chez soi ou bien aller en maison spécialisée, médicalisée, en maison de retraite. Mais nos partenaires nous ont dit à ce moment-là, Odoxa, mais attendez, il y a une autre solution qui se développe beaucoup. Et parmi les autres solutions qui se développent beaucoup, il y a cette possibilité de pouvoir alterner. On n'est pas obligé d'être uniquement internés, si j'ose dire, définitivement. On peut faire les deux, ce qui peut être pratique pour les personnes concernées et ce qui est aussi quelque chose de d'avantageux, on va dire, pour les maisons qui le permettent. Et donc on a testé cette idée dans le sondage et on se rend compte que, bien sûr, les plus de 65 ans et les personnes concernées préféreraient rester chez elles le plus longtemps possible plutôt que d'être dans une maison médicalisée. Mais si on leur offre la possibilité de l'alternance, comme le rappelait Serge, on a plus d'un tiers d'entre eux qui nous dit mais c'est ça qui serait bien. Et d'ailleurs, sur certains troubles, notamment les troubles cognitifs, Alzheimer par exemple, eh bien les personnes nous disent là, il faudrait consacrer, je pourrais pas rester chez moi, je suis bien obligé de me débrouiller avec une maison médicalisée.
Philippe de Normandie.
Oui, c'est une tendance très forte, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un système du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on est chez soi, on est en institution, un système beaucoup plus souple. Et en fait, on voit bien qu'en plus, ses besoins changent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être, les dents peuvent être fatiguées, la personne elle-même peut avoir eu un problème médical qui fait qu'elle peut plus rester chez soi. Donc, on est en train de rentrer dans un système qui est un système où il faut, on parle beaucoup de parcours. Le parcours, ça nécessite forcément de l'imagination, ça nécessite de la souplesse et ça se crée dans les logiques de territoire. C'est-à-dire qu'il faut que se crée un cadre et ça commence à se créer qui permet dans les territoires de montrer ces variétés et ces souplesses. Et les structures elles-mêmes se rendent compte qu'elles peuvent pas dire, on va prendre que des gens de façon définitive. Non, il faut développer des séjours courts, des séjours temporels, le jour, la nuit. Il faut l'imagination au pouvoir et arrêter d'avoir un modèle qui soit un modèle rigide.
Alors, il faut l'imagination au pouvoir, mais Françoise insistait bien sur la difficulté de financement effectivement de ces maisons partagées. Je voulais donner un chiffre. Les conseils départementaux qui financent, qui financent notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, moins 3,4 milliards d'euros sur 3 ans, ce problème du financement, il est vraiment problématique aujourd'hui. Serge Guérin.
Et il inquiète les deux tiers des Français.
Et il inquiète, dans le sondage Odoxa, le baromètre Odoxa, il inquiète 2 Français sur 3.
Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant ce baromètre, parce qu'on voit, ça inquiète 2 Français sur 3. 57% de mémoire des Français disent ces enjeux-là sont absolument majeurs. Et par exemple, lors de la campagne présidentielle, ça a été des non-sujets. Il y a 10 ans, en 2007, les 3 candidats arrivaient en tête. Les 3, c'était, par exemple, impliqués sur la question du cinquième risque, qui est une question qui a été posée.
Oui. Cinquième risque de la sécurité sociale.
De la sécurité sociale, prenant en compte le grand âge. Il y a 10 ans, c'était engagement des 3 premiers candidats arrivés en tête. Aujourd'hui, aucun des candidats n'en avait parlé. Je dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis qu'aucun candidat n'en a parlé. Donc on voit bien aussi, d'un côté, des réalités portées par les gens, pas seulement les gens âgés, mais aussi les plus jeunes. Et puis de l'autre côté, du politique qui a absolument pas saisi, qui a des enjeux là extrêmement importants. Et sur les chiffres, en effet, vous avez parfaitement raison, les départements sont en première ligne. C'est eux qui financent à peu près à 75%, alors qu'au début ça devait être 50-50 avec l'État, puis l'État a reculé. Et en même temps, l'État recule, en même temps l'État enlève des moyens économiques aux départements. Et du coup, on se retrouve aussi avec une situation extrêmement détestable, c'est selon l'endroit où je vis, l'aide départementale n'est pas la même. Et très souvent, c'est là où il y a le plus de personnes âgées, que les départements ont le moins de moyens et que donc ils peuvent financer le moins bien. Et donc on a aussi une disparité territoriale extrêmement importante. Il faut se rendre compte que ces coûts-là, c'est à peu près 1% de la croissance, de la richesse du PIB d'ici à
2024. 24 milliards de financement public pour la dépendance en ce moment, 35 milliards attendus d'ici 2060, c'est énorme.
Voilà, et ça sera
en plus, c'est du prévisionnel, donc les politiques pourraient vraiment mettre en place des politiques d'avenir là-dessus.
Et en sachant que ces politiques-là ne sont pas des politiques où l'argent est comme ça dans un panier percé. Ça développe des emplois. Ça a été dit par la première auditrice. C'est l'aménagement du territoire, d'une certaine manière. Dans les endroits où il y a peu d'emplois, autour de l'accompagnement des plus âgés, on peut créer, mais aussi des personnes en situation de handicap, mais aussi des enfants, ainsi de suite, on peut créer des centaines de milliers d'emplois et donc de permettre aussi à des jeunes de rester sur place. Donc c'est aussi des logiques totalement intergénérationnelles de dynamique économique.
Gaëlle Simon.
On a, pour illustrer ce qui vient d'être dit et ce qui avait été déjà souligné par l'auditrice, s'agissant des aidants qui représentent quand même, d'après notre sondage et d'après un certain nombre d'autres données aujourd'hui, plus de 8 millions de personnes en France. S'agissant des aidants, on en a 8 sur 10 qui nous disent qu'ils ne bénéficient d'aucune aide. On en a 1 sur 2 qui nous dit qu'ils ne bénéficient d'aucune situation, d'aucune possibilité de recours. C'est-à-dire à un moment de répit où il aurait besoin de prendre ou elle aurait besoin de prendre une semaine de vacances, ça n'existe pas pour eux. Et on a 7 aidants sur 10 qui nous disent qu'ils sont insuffisamment aidés par les pouvoirs publics. Donc on voit bien qu'il y a une problématique, et je rebondis sur ce que disait Serge Guérin à l'instant, qui a été complètement oublié par les politiques. Alors que
Pour quelle raison, Gaël Sliman, les politiques déjà, oublient totalement aujourd'hui que dans 200 000 centenaires dans 50 ans, c'est les dernières études qui le montrent.
Déjà,
c'est quand même prévisible,
quand même,
on sait ce qui va se passer.
Soyons optimistes ou positifs sur un point, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Serge Guérin à l'instant sur la question du grand âge et du vieillissement, et des aidants, et du cinquième risque, mais... Il y a de ça, j'ai suivi toutes les campagnes présidentielles depuis 1995, en tout cas depuis 2002 clairement, et on n'avait jamais autant parlé de questions de santé que lors de cette élection-ci. D'habitude, elles sont totalement absentes, on n'en parle pas du tout. Là, cette fois, Serge a raison, on a parlé de santé, on a parlé de l'assurance maladie, on a parlé de différents sujets
autour
de la santé.
Grâce à M. Fillon, un petit peu.
Grâce beaucoup à M. Fillon, vous avez raison. Mais c'est vrai, on a oublié cette question du cinquième risque quand même. Oui. On a les deux tiers des Français qui nous disent, dans l'enquête, qu'ils seraient favorables à la création de ce cinquième risque. Donc, il y a une attente, il y a une préoccupation. C'est vrai que le projecteur s'est un petit peu déplacé sur la santé, une des trois préoccupations majeures depuis 20 ans de la part des Français. Hein. Donc, c'est heureux quand même qu'on s'en préoccupe un petit peu. Mais c'est vrai que cette question de la dépendance, elle n'a sans doute pas été, Stéphane, assez clivante. C'est-à-dire que les hommes politiques parlent des sujets qui sont importants pour les Français, mais ils parlent aussi des sujets sur lesquels ils pensent gagner des points par rapport à leurs adversaires. Et sans doute, sur ce sujet-là, n'ont-ils pas eu d'idées assez innovantes les uns ou les autres.
Philippe de Normandie, et on ira au standard.
Je pense qu'on a parlé, dans la campagne, on a parlé beaucoup de prévention. Et je voulais venir parce que le sujet des personnes âgées nous pose un problème un peu de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on parle en disant il faut trouver des financements pour l'indépendance. Ce qu'il faut, c'est repenser d'abord autonomie. Je pense que c'est ça l'élément important. Parce que les gens, ils veulent pouvoir continuer autonome, même s'ils ont un certain nombre de pertes de capacités. Je suis chirurgien à Garches, on s'occupe de personnes handicapées. On parle de l'autonomie et de voir comment on peut continuer à faire fructifier ce qu'on a. Plutôt que de parler toujours de dépendance, on va faire à la place. Et dans ce sujet de la prévention, on sait qu'il y a énormément de possibilités d'améliorer le système en repensant un transfert d'enveloppe entre le soin et le médico-social. Le vrai sujet que l'on a également dans nos pays, c'est qu'on a un système de cloisonnement. Or, je prenais un exemple idiot, mais la fracture du col du fémur, qui coûte horriblement cher. Il y a plusieurs dizaines de milliers de fractures du col du fémur. On sait que, pour un certain nombre, en faisant un certain nombre d'actes de prévention simples, on peut les prévenir. Voilà. Donc, il y a une réflexion différente qui est en train de mener, qui a été évoquée quand même dans la campagne du Mort par tous les partis, qui est de se dire, est-ce que le sujet de la prévention et de l'accompagnement de la modification de l'autonomie n'est pas un sujet clé le sujet n'est pas uniquement le sujet de la dépendance avec un cinquième risque. Il faut avoir une vision globale. Car il y a eu également un certain nombre d'études qui ont montré que si on prenait l'ensemble du coût entre guillemets dépendance et le coût soin des personnes âgées, on pourrait dans cette enveloppe globale imaginer les financements de façon différente. Donc je pense qu'il faut voir la globalité et pas en prendre qu'à petit bout.
Oui, 2% des dépenses de santé sont centrées sur la prévention. Par exemple, sur les chutes, c'est 2 milliards d'euros. On pourrait économiser 2 milliards d'euros et les gens seraient bien plus heureux. Et ces 2 milliards d'euros, on les mettrait sur l'accompagnement, sur les emplois et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on a un gisement extraordinaire, humaniste d'abord, et professionnel et économique pour l'ensemble de la société.
Au standard 01 45 24 7000, on retrouve Solange pour un témoignage. Solange, vous nous appelez de Béligne et on reste sur le problème budgétaire, sur le problème d'argent.
Bien sûr, oui. Bonsoir à tous.
Bonsoir, on vous écoute Solange.
Oui, je bénéficiais, moi, par ma caisse de retraite pendant 20 ans, j'étais jeune encore, de 60 heures par mois d'aide à domicile. Et puis, comme je n'avais pas assez de ressources, bien évidemment, parce que je suis obligée d'emprunter pour manger, rendez-vous compte, nous devons vivre bien au-dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il a fallu faire une demande d'APA. Le médecin qui est venu évaluer l'APA pour l'APA, vu mon dossier médical, m'a dit que je vais bénéficier de l'APA. Il n'y a pas de souci, vu mon dossier médical. Mais vous savez, madame, nous n'avons que des petites enveloppes. Alors, vous n'aurez pas beaucoup. Voilà la réponse. Et moi, je pense qu'en aidant plus les personnes à domicile, d'abord, c'est des créations d'emplois. Des emplois, il faut le savoir, qui sont pas rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font, ce qu'il faudrait, et qui sont très importants. On parlait de la prévention, au lieu de avoir des chutes dans la maison, des fractures du col du fémur, etc. Si les personnes sont davantage aidées, elles vont être plus facilement mobiles chez elles et pourront rester plus longtemps chez elles, ce qui coûtera beaucoup moins cher. Et qui peut aller dans un centre, un EHPAD ou maison de retraite même? Qui peut payer cela avec les petites retraites qu'on en a?
Merci Solange pour votre témoignage, Philippe de Normandie.
Oui, je pense que l'auditrice remet la question...
On est au centre du sujet, là. On est au cœur du sujet.
Effectivement, il y a des problèmes de financement, mais il faut repenser le financement dans sa globalité. Sinon, c'est extrêmement compliqué de se sortir de ce dossier. Et on voit qu'il y a une... Quand on dit changer de paradigme, c'est essentiel. Vous allez dans d'autres pays que la France, la vision qu'on a des personnes âgées, mais on ne parle pas de dépendance. Vous avez des mots qui tuent. Enfin, vous êtes dépendant, dément, déambulant, alors qu'on pourrait repenser les choses de façon beaucoup plus positive. Et que le vrai sujet, c'est un vrai sujet sociétal. Et on le voit bien. S'il y a une crainte dans le sondage, et tous les chiffres l'ont montré, c'est que cette vision est une vision négative. Il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes âgées quand même qui vont bien. Et qu'on a besoin de reparler et de reprendre le sujet de façon beaucoup plus positive. Et dans une vision plus globale. Pour régler les difficultés qu'évoque madame. Mais cette recherche de l'autonomie, et non plus de la dépendance, est un sujet clé. Ça pose le sujet, madame l'évoquait, le problème des assurances au niveau de la MNH, on a toute une réflexion et comme d'autres pour se dire comment on est capable de faire de l'accompagnement, comment on est capable de faire en sorte que les gens puissent à un moment donné se faire de vrais bilans pour pouvoir se reposer la question de l'autonomie, comment on est capable d'aider et d'accompagner. Il y a une vision qui doit être une vision différente. Si on reste dans le même modèle, on voit bien qu'on est en train de se mettre dans un cul-de-sac et la preuve c'est que personne n'a trouvé la solution. Donc on a besoin sociétalement de trouver un modèle qui soit un modèle différent et le sondage l'évoque bien.
Gaël Sliman et on ira au standard.
Oui, une illustration de ce que dit Philippe de Normandie sur quelques chiffres de l'enquête. En termes de perception, notamment de ces EHPAD, de ces fameux établissements, on a aujourd'hui près de 7 personnes sur 10 en France qui en ont une mauvaise image, alors que... 6 personnes sur 10 qui en ont une mauvaise image, alors qu'ils sont une très large majorité, proportion inverse, à avoir une bonne image des personnels qui y travaillent. Donc il y a bien quelque chose qui a à voir, ce que disait Philippe à l'instant, à la sémantique. Comment on nomme les choses, comment on les perçoit, comment on les présente. Et d'ailleurs, le pire, peut-être, c'est que cette perception si négative des établissements en question, elle est complètement intériorisée par les directeurs d'établissements. Parce que la particularité de ce baromètre...
C'est quoi, il y a une omerta, on n'en parle pas ou...
Non, c'est que les gens sont persuadés qu'on y est mal, alors qu'en fait, quand on réalise par ailleurs des enquêtes, des retours d'expérience de patients, finalement, les résultats ne sont pas mauvais du tout. Donc, les gens qui vivent l'expérience dans ces établissements ne sont pas négatifs. C'est l'image que l'on a de ces établissements qui est négative, alors qu'on pense que les personnels sont compétents. Et c'est complètement intériorisé par les directeurs d'établissements qui savent qu'à tort, ils bénéficient, leurs établissements bénéficient d'une mauvaise image, alors que leurs personnels ont une bonne image. Donc il faut changer les mentalités, peut-être, pour permettre un changement. Alors, l'auditrice qui est intervenue parlait de moyens aussi et de budget. Plus de 8 Français sur 10 pensent que ces établissements manquent de moyens et que c'est pour cela que l'on y serait mal. Il faudrait peut-être déjà faire connaître le résultat des études de satisfaction des patients et des familles dans ces établissements qui montrent qu'il n'en est rien.
Alors à propos justement de l'image de marque des EHPAD, Lilou, vous nous appelez de Dax et vous voulez apporter vous aussi un témoignage. On vous écoute Lilou.
Voilà, alors moi c'est un peu différent de ce qui vient d'être dit. Je voulais dire que dans les EHPAD, c'est l'environnement même, on regroupe des personnes très dépendantes. Alors pour les personnes qui le sont moins, c'est vraiment un environnement triste et ce n'est pas réjouissant du tout d'être accompagné par toutes ces personnes de plus en plus, extrêmement dépendantes, parce qu'on accueille dans les EHPAD des personnes de plus de 80 ans, voire 85 ans. Et de plus, moi c'est mon cas personnel, je suis malvoyante, je ne veux pas entrer en EHPAD, je vais avoir 71 ans, et jusqu'à présent je mangeais dans une structure qui était un logement-foyer, foyer-logement. Et c'était comme une maison de retraite traditionnelle. Elle a été fermée, elle est remplacée par un EHPAD, parce que dans ma ville c'est la mode, 2 EHPAD ont été créés à la place de 2 maisons de retraite. Logement-foyer. Et donc maintenant, on me dit, vous n'avez plus le droit d'y manger à midi parce que maintenant, c'est un EHPAD. On n'accepte plus les personnes extérieures. Alors, je me demande si c'est une réalité. Je profite que l'émission est nationale et je vous remercie pour vos émissions. Et je suis particulièrement motivée par cela parce que depuis le mois de septembre, qu'a ouvert cet EHPAD, je n'ai plus le droit de manger à midi. Je souhaite rester chez moi, mais je souhaitais faire un repas de midi correct, varié, en compagnie de personnes qui n'étaient pas spécialement dépendantes. Et ça me faisait faire un petit bout de chemin, parce que je vois encore suffisamment pour me conduire, même si je ne peux plus lire ni écrire. Et on me dit que je ne peux plus manger. Alors ces EHPAD, pour moi, c'est pas la solution. Il faudrait revenir à des maisons où on mélange un peu plus les pensionnaires.
Merci Lilou, témoignage de Dax, Serge Guérin.
Lilou a parfaitement raison, et c'est très bizarre parce qu'il y a plein d'EHPAD qui sont ouverts le midi par exemple, à ce que d'autres personnes puissent venir déjeuner, mais même à d'autres moments. L'idée c'est comment ces lieux s'ouvrent sur la société, s'ouvrent sur le quartier. On est plutôt dans ce type de logique. On n'est pas tellement dans l'ouverture de nouvelles EHPAD, puisque l'État a plutôt tendance à limiter ces choses-là. Les foyers logements deviennent des résidences autonomie. On essaye justement aussi qu'il y ait plus de liens. L'idée c'est plutôt de créer une sorte de parcours. Je peux habiter, être accueilli à tel ou tel endroit, et puis à un autre moment, à tel autre. Et plutôt, on cherche en ce moment plutôt à ouvrir les portes de tous ces éléments-là pour qu'il y ait plus de passages, y compris d'ailleurs, ça répond exactement d'ailleurs aux demandes des personnes. Donc je crois qu'on n'est pas trop là-dedans normalement, mais Lilou a parfaitement raison. Il faut que ça reste justement ouvert, parce que c'est aussi une manière de dédramatiser. On disait avec raison que les mots sont très violents, quand on parle d'EHPAD, quand on parle même de maison de retraite. En Belgique, on parle de maison de repos, de lieu d'accueil, et ainsi de suite. Il faut aussi qu'on change les termes, mais il faut aussi qu'on change les réalités, et qu'on ouvre plus vers les autres. Tout ce qui est habitat intergénérationnel, par exemple, tout ça, tout ce qui est expérience, où finalement, à un moment ou à un autre, je vais aller vers l'école, je vais aller vers le lycée hôtelier, vers d'autres lieux comme ça.
L'habitat, il est important. Comment on maintient, quand une personne âgée va en EHPAD, comment est-ce qu'on maintient un chez-soi quand on n'est plus chez-soi, en quelque sorte? Comment on y arrive?
Alors c'est drôle parce qu'avec Philippe, nous avions travaillé ensemble, à l'époque de l'Institut Bienveillir Corian, sur les mots pour le dire. Et aussi pour la notion du chez-soi. Parce qu'en fait, on peut être chez soi dans plein d'endroits. Et on peut ne pas être chez soi, parfois chez soi. Hein, s'il y a 15 personnes qui viennent tous les jours chez vous, des intervenants, des auxiliaires de vie, ainsi de suite, à un moment donné, vous n'êtes plus chez vous. Et parfois, on peut être chez soi, y compris dans une maison de retraite médicalisée, parce qu'on respecte, on frappe avant d'entrer, parce qu'on a gardé la table de nuit d'avant, ou des choses comme ça, parce que simplement, les gens pensent que si je garde les photos de mes enfants, je vais avoir l'impression d'être chez soi. Et on avait fait une étude, et c'était pas du tout ça. C'est par exemple, les gens disent, le premier des chez moi, c'est d'avoir la liberté d'aller et venir, et deuxième élément, c'est d'avoir mes papiers, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc, le chez-soi, c'est beaucoup plus complexe que l'on ne croit, et on peut être, encore une fois, chez-soi, dans des lieux qui sont collectifs, dans des lieux qui sont comme des maisons de retraite.
Philippe de Normandie.
Oui, ce sujet de l'ouverture est clé. Le paradoxe, c'est que les personnes qui utilisent les établissements, les EHPAD, quel que soit le type d'EHPAD, globalement, en ont une vision positive.
C'est ça, quand
ils y vivent. Les personnes qui font des séjours courts sont les mêmes quand elles viennent de façon définitive, parce qu'à un moment donné, pour un certain nombre de raisons, ils ne peuvent pas rester chez eux, ils le vivent de façon définitive, de façon positive. Et donc, on a un vrai sujet qui est cette notion d'ouverture. Et donc, par rapport à ce que dit l'auditrice, madame a tout à fait raison. C'est pas normal qu'un EHPAD se renferme sur lui-même. Ça doit être un lieu, au contraire, d'ouvert, mis à la disposition, on pourrait l'imaginer, des personnes âgées de l'environnement immédiat pour répondre à un certain nombre de services. Ensuite, l'auditrice pose une question de fond, également, qui est le problème de l'homogénéité. Il y a un certain nombre de travaux scientifiques qui ont également montré que c'est vrai qu'on a besoin d'être avec des gens qui ont les mêmes goûts, pas forcément les mêmes capacités à un moment donné, mais envie de faire la même activité, se faire le même plaisir. Il y a quand même un maître mot quand on vieillit, c'est la notion du plaisir. Et que l'importance de pouvoir avoir des activités avec des groupes dans une ambiance homogène de gens qui ont la même volonté de faire une activité, de se faire plaisir, est extrêmement importante, parce que sinon le mélange peut effectivement être extrêmement violent et à ce moment-là être une sorte de rejet.
Alors justement Gérard, vous nous appelez de Paris, vous êtes dans le 11e arrondissement, vous vouliez apporter un témoignage, finalement, à votre grande surprise, la maison de retraite où était votre tante, c'était une maison de retraite formidable.
Eh bien, écoutez, oui, voilà, bonsoir. Mais
bonsoir.
J'ai fait une expérience qui a remis en question tous les stéréotypes que j'avais, les idées que j'avais sur les maisons de retraite. Parce que j'ai vu, je me suis occupé de ma tante qui n'a pas d'enfant, et donc elle est dans une maison de retraite. Et en fait, ça l'a transformée, c'est-à-dire qu'elle a gagné en sociabilité, elle a gagné en affection, parce que le personnel est très attentif et s'occupe de tout le monde, elle a gagné en présence, en activité, en promenade organisée, vraiment, j'ai été époustouflé, et je dois le dire, c'est que elle a rajeuni de 10 ans dans sa maison de retraite, quoi.
C'est
et je veux dire quand même que ça m'a étonné, compte tenu de toutes les idées, tous les a priori que j'avais, qu'on avait d'ailleurs beaucoup hésité avant qu'elle fasse le pas, mais mais ça a été un plus pour elle, et je crois que, je pense que le problème central, enfin, d'après mon expérience, le problème central, c'est que, il faut qu'il n'y ait pas une trop grande distance entre la famille et la maison de retraite. Je crois que ça, c'est un problème déterminant. Parce qu'on va la voir souvent, ça ne change pas ses habitudes de visite, puisqu'elle est sur Paris, on est tous sur Paris. Donc, elle a ça, mais elle a un plus, c'est qu'elle a de la sociabilité. On s'occupe d'elle, elle a des clubs de tout, elle adore danser, donc elle danse deux fois par semaine dans sa maison de retraite, ce qu'elle ne faisait jamais chez elle. Enfin, voilà. Donc, pour moi, je crois qu'il faut quand même transformer l'image qu'on donne et le discours sur les maisons de retraite, parce que je crois que elles ont changé, ce ne sont plus les mouroirs ou les mouroirs sinistres qu'on a dans nos images, dans nos représentations. Et je crois que là, il y a un gros travail à faire sur les mentalités, je crois.
Merci Gérard, vous appeliez de Paris Gaël Simon. Effectivement, si on se fie à votre étude au baromètre, il y a un gros, gros boulot pour changer effectivement l'image de marque des maisons de retraite.
C'est très intéressant ce témoignage, parce que c'est exactement ce qu'on disait au début de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a un hiatus énorme qui existe entre la perception intégrée par les directeurs d'établissement eux-mêmes, et cette perception elle est négative, l'image elle est mauvaise, et le vécu des patients concernés qui eux, et de leur famille, qui eux nous renvoient, alors pas tous, mais majoritairement des témoignages de ce type. Et je crois que Philippe de Normandie avait raison, et Serge Guérin aussi, de dire qu'il fallait sans doute pas que ces établissements soient comme des forteresses ou des donjons complètement fermés sur la société, parce que même si on y vit bien, personne ne le sait. Donc il faut aussi qu'il y ait une ouverture sur la société qui permette qu'il y ait finalement le plus de porosité possible pour les familles, pour les patients qui y sont, et que les gens sachent qu'on y vit assez bien.
Serge Guérin ?
Je crois qu'on peut dire à Gérard qu'il fasse attention, parce que même peut-être que sa tante va se découvrir un amoureux dans cette maison de retraite. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, il y a du lien social, et c'est quand même ça qui est en jeu, quoi. C'est comment on permet à ces personnes, comment on les accompagne et comment on leur laisse aussi, ce que disait Philippe tout à l'heure, le droit au plaisir, le droit au désir. Il y a des endroits, par exemple, où on va regrouper les personnes parce qu'elles adorent la musique ensemble. Et bien voilà. Mais, et en même temps, il y a cette notion, disons, de sécurité. Parce qu'une des demandes centrales, c'est se sentir en sécurité. Est-ce que si jamais j'ai un problème de santé, est-ce qu'on va pouvoir intervenir. Donc finalement, ce sont souvent des endroits qui permettent aux gens de mieux vivre et de vivre plus sereinement, et à l'entourage aussi de pouvoir le faire. Après, il y a la question des revenus, parce qu'en effet, on est trop dans une logique où on pense que les retraités sont tous des gens riches, ainsi de suite. Je crois d'ailleurs que le gouvernement s'est engagé à augmenter le minimum vieillesse, et je crois que ça c'est vraiment extrêmement important. Le minimum vieillesse est en dessous du seuil de pauvreté. On est quand même dans des situations assez incroyables. Et la retraite moyenne en France, c'est 1 300 € et 1 050 € pour les femmes. Donc c'est ces enjeux-là aussi, mais c'est un enjeu d'accompagnement de personnes, et de dire on a le droit jusqu'au dernier jour de sa vie d'être d'abord un être humain, et d'être un être humain de plaisir, de désir et de rencontre.
France Inter, 19h45, vous écoutez Le Téléphone Sonne.
France Inter, Le Téléphone Sonne, Stéphane Leneuf.
Intervenez au 01 45 24 7000. On retrouve François qui nous appelle de Lille. François, vous vouliez nous parler du coût, effectivement, du coût dans les EHPAD.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, je vous remercie pour la qualité de vos émissions. Franchement, c'est super. Je vous
merci
écoute,
beaucoup.
Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Oui, je voulais vous dire, témoigner un petit peu de la situation qu'on rencontre ma sœur et moi. On a nos deux parents, en fait, malheureusement, qui sont tous les deux hospitalisés. Mon père va devoir effectivement être, j'aime pas le mot, placé. On va devoir effectivement, on est en train de choisir une EHPAD pour lui. Et maman, elle va revenir effectivement à la maison, mais c'est, on va dire, temporaire. Le coût, en fait, de l'hébergement, le coût des résidents, de l'hébergement, mais ça coûte un bras. Et du coup, le bien familial, c'est-à-dire cette maison de famille qui possédait... Allô ?
Oui, on vous écoute, François, on vous écoute.
Ce bien de famille qu'on cherchait à conserver. Je vous avoue même que moi, j'avais un projet de retraite ici, on va devoir, malheureusement, si on fait appel à l'aide sociale, c'est hypothéqué, et rien ne dit que derrière, on va pouvoir rembourser l'aide qui va être apportée, et sinon, de toute façon, on va vendre la maison, quoi. Enfin, quelque part, ce sont deux personnes qui ont qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont placé tout leur bien dans leur maison pour être heureux en retraite. Et là, tout ça, bah, ça s'effondre, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Merci François pour votre témoignage. Le coût d'un EHPAD, c'est 2500 euros par mois et par personne, c'est à peu près ça. Serge Guérin.
Oui, c'est dans ces eaux-là. Alors, selon l'endroit...
Je voulais juste citer un autre chiffre. Hein. 7 milliards d'euros, c'est la somme consacrée par les ménages aux dépenses de dépendance. C'est énorme.
Oui, globalement, ce qu'on appelle souvent le reste à charge, le terme est très laid, mais enfin, c'est-à-dire que ce que payent les gens, alors c'est très très variable, ça dépend évidemment des situations. Bon, il faut rappeler hein, qu'environ 700 000 personnes sur les 16 millions de retraités vivent dans ces lieux-là, donc ça reste, et heureusement, une minorité, mais c'est vrai que dans certains cas, ce sont des coûts. C'est élevé. Alors, si c'est dans Paris, c'est plus cher. Si c'est plus loin, c'est moins cher, et ainsi de suite. Après, il y a quand même des aides. Alors, il y a l'APL parfois, il y a l'APA beaucoup, il y a une APA si on est chez soi, ce qu'on appelle à domicile, et une en établissement. Mais tout ça sont quand même des coûts. Et parfois, en effet, il y a une sorte de logique presque. J'ai épargné et une partie de mon épargne. D'ailleurs, on voit bien dans le sondage de Doxa, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils mettent de côté. Et entre autres, c'est j'ai une maison, un lieu qui me permettra au cas où, justement,
de rester chez moi.
Voilà, de rester chez moi ou de la résilier pour pouvoir financer, ce qui a une certaine logique, puisque finalement, on arrive à des moments où les gens mourant beaucoup plus tard, les enfants récupèrent l'héritage à un moment où ils n'en ont pas réellement besoin. Donc, on rentre aussi dans une nouvelle logique, mais c'est vrai que parfois, c'est une assurance et le bien, quand il est vendable, le bien permet aussi de financer tout ou partie de cet accueil en maison de retraite.
Quelques chiffres peut-être pour illustrer cela d'un point de vue quantitatif, hein, ces situations vécues par les gens. On a, je le disais tout à l'heure, 8 aidants sur 10 qui ne bénéficient d'aucune aide, 7 sur 10 qui pensent que, ils s'estiment mal aidés par les pouvoirs publics. S'agissant des aides, on a 82% des Français qui ne connaissent pas les dispositifs de prise en charge de la perte d'autonomie, ni qui ne savent s'adresser ou s'adresser en cas de besoin. On a l'immense majorité de nos concitoyens, en gros les trois quarts d'entre eux, qui nous disent que d'après eux, d'après ce qu'ils s'en savent, ces aides c'est quelque chose de complexe, pas forcément efficace, pas adapté à leurs besoins, pas facilement accessible. Et Serge le disait à l'instant, du coup, on a en gros 6 Français sur 10 qui nous disent qu'ils essayent de trouver des parades pour arriver à mettre de côté d'une manière ou d'une autre, pour faire face soit à leur grand âge à eux et à trouver des solutions pour leur propre vieillissement, soit pour celui de leurs parents. Et parmi ces solutions, eh bien effectivement, il y a les divers placements immobiliers qui peuvent être effectués, notamment sur leur résidence principale.
Philippe de Normandie et on est au standard.
Oui, deux remarques. D'abord qu'on voit bien que c'est un sujet qui est nouveau pour tout le monde, puisqu'on a la chance de maintenant mourir tard. Donc ça redonne complètement les équilibres classiques que je vais hériter. Voilà. Peut-être que l'héritage, il va servir à permettre à la personne de vivre. Parce que demain, on va être centenaire. Et puis peut-être que la génération d'après, ça va être...
200 000 centenaires dans
d'ici 50 ans. Donc ça repense. C'est vrai que les personnes âgées nous obligent à être inventifs sur des organisations et des innovations dans la façon avec laquelle on mobilise, entre guillemets, l'héritage global d'une famille. La deuxième remarque, c'est vrai que ça pose la question des possibilités assurantielles. On voit un certain nombre d'assurances dépendance, on y réfléchit à ménage comme à d'autres endroits. C'est indispensable de pouvoir commencer à réfléchir différemment. Et puis ça pose quand même, je trouve, un sujet très intéressant qui est repenser le problème de la solidarité, mais qui devient une solidarité également intergénérationnelle. Et donc il y a des logiques d'aide qui vont être des logiques d'aide qui ne seront plus uniquement l'aide du très vieux avec uniquement ses enfants. Et on le voit même dans les rapports et dans un certain nombre de travaux. Le très vieux, il est également en rapport avec le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Car il y a certes de l'immobilisation financière, mais il y a également tout ce qu'on a évoqué qui est l'accompagnement, le pouvoir, la relation sociale. Donc on voit bien qu'on est en train de repenser un certain nombre de modèles, ce qui est particulièrement intéressant. Et je pense qu'on a la chance d'avoir une société qui est obligée de se poser ces questions parce qu'elle nous fait avancer collectivement.
Un témoignage de Pierre-Yves au 0145 24 7000 à Florence. Bonsoir Pierre-Yves, on vous écoute. Vous êtes, vous, aide-soignant en EHPAD, hein?
Oui, bonsoir messieurs, et merci pour prendre ma question et pour la qualité de vos émissions. Voilà, je voulais réagir à ce qui a été dit il y a quelques minutes au sujet de l'image positive qui était renvoyée par les familles et les résidents des EHPAD. Et je souhaitais apporter de l'eau à mon moulin en disant que du côté des équipes, en fait, on a tout à fait une vision opposée, puisque on travaille vraiment... dans la majorité des EHPAD, on travaille en sous-effectif, on manque d'accessoires, de matériel. Il peut y avoir peut-être aussi de la maltraitance institutionnelle, mais sans le vouloir, c'est pas qu'on frappe les personnes ou bien que qu'on les oublie quelque part. Non, la maltraitance institutionnelle, ça peut être le fait de bâcler une toilette parce qu'on n'a pas le temps, de pas donner la douche aux résidents parce que, pour les mêmes raisons, il manque du personnel. Et on aime beaucoup notre métier. Et c'est vrai que ce côté-là, du manque de personnel est souvent criant, quoi. Pas souvent évident à vivre au quotidien et nos salaires ne sont pas plus élevés que les autres. Hein.
Merci Pierre-Yves, vous nous avez appelé de Florence. Gaël Simon.
84% des Français pensent que les établissements de santé de ce type, les EHPAD, manquent de moyens.
Et c'est donc là, on a vraiment le témoignage de Pierre-Yves qui nous le confirme.
C'est probablement une des raisons pour lesquelles ils ont une mauvaise image, puisque je rappelle, les retours d'expérience patients et familles ne sont pas mauvais. C'est l'image des Français qui est mauvaise sur ces établissements. Et donc, c'est sans doute une des clés d'explication de cette mauvaise image. Et ce que dit l'auditeur rejoint la perception interne, même enregistrée auprès des directeurs d'établissements, qui ont, encore une fois, eux-mêmes intégré cette mauvaise image.
Philippe de Normandie.
Oui, c'est un sujet qui est récurrent, mais deux remarques. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de domaines où on est capable de réfléchir pour mieux s'organiser entre les EHPAD et mutualiser un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à l'image du soin. Le soin, on peut se dire qu'on est capable demain, grâce aux nouvelles technologies, à la télémédecine, à faire en sorte de pouvoir amener un certain nombre de services dans des modèles qui soient des modèles où on va mieux travailler entre nous pour essayer d'optimiser. Et derrière ça, parce que plus il y a de personnel, plus ça coûte aussi. Donc il y a un moment donné, il faut être cohérent. Et un certain nombre de structures réfléchissent sur ces possibilités de travailler. Enfin, la deuxième remarque également, c'est que le métier est en train également de changer. Beaucoup, et on le voit dans beaucoup de travaux, et quand on compare avec d'autres pays, là encore, c'est intéressant de réfléchir, le personnel, sur est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on aide et on crée un environnement pour que les gens continuent à faire le plus possible. Et là encore, c'est très très intéressant, parce que c'est une question de fond. C'est on est dans un modèle qui est quand même, où tout est organisé autour de « on va faire à la place ». Je ne fais aucune critique, je suis un soignant comme les autres. On a été formé comme ça. Je pense qu'on a à réfléchir sur un modèle qui est pas forcément avec des compétences soignantes probablement qu'il faut qu'on fasse évoluer, qui est comment on va permettre aux personnes de continuer le plus possible à faire. Et probablement qu'on est à ce moment-là dans une réflexion du nombre de personnels ou des compétences qui doit être différente. D'où l'importance de l'accompagnement qu'on peut réfléchir et qu'on essaie de mettre en place en essayant justement d'accompagner cette nouveauté et cette façon différente de voir les choses.
Serge Guérin.
Juste pour illustrer, les deux tiers des Français et de tous les acteurs interrogés, les médecins, les directeurs d'établissements, sont persuadés, sur ce que disait Philippe de Normandie, que les nouvelles technologies pourront jouer ce rôle utile pour la santé de demain dans ces établissements.
Serge Guérin, et après on va au standard.
Le mot central, c'est la notion d'accompagnement. Faire avec les personnes. Finalement, c'est la même logique avec les enfants. On se dit plutôt que leur dire « Ah, tu sais pas faire ça », c'est comment on valorise ce qu'ils savent faire. Eh bien, avec les plus âgés, c'est « Ah, t'es plus capable de faire ça ». Oui, mais tu sais encore, ou vous savez encore, faire telle ou telle chose. Et on construit avec ces personnes-là. Et contrairement à ce qu'on croit, dans ces domaines-là, où en effet, les profils sont pas les mêmes, où la question du soin est beaucoup plus large que juste la question de la santé. En fin de compte, il y a de l'innovation. Alors, il y a l'innovation technologique qui peut être au service, mais qui remplacera jamais, mais surtout de l'innovation sociale. Mais comment aussi les familles y participent? On a eu Gérard tout à l'heure, il vient voir l'Institut, mais les familles, elles peuvent aussi participer et du coup, faire aussi baisser les coûts. C'est aussi comment la société dans sa globalité participe. Après tout, une école, on peut partager aussi, on peut mutualiser. Ça peut être la cantine, ça peut être plein d'autres endroits. Le lieu d'activité physique, il peut y avoir le même lieu, peut-être pas nécessairement au même moment, et encore avec des enfants qu'avec des personnes âgées. Vous voyez, donc on peut inventer plein de choses où finalement les gens sont plus heureux, les gens sont plus acteurs ou auteurs de leur vie, y compris du bout de leur vie, et en même temps où ça serait en plus moins cher. Mais c'est vrai que c'est un changement, une révolution dans les têtes. Mais ça tombe bien parce que plus on fait travailler sa tête, plus on éloigne le risque d'Alzheimer.
Voilà, j'ajoute ce témoignage de Sylvie à Mulhouse. Hein, ma fille travaille dans un EHPAD. Dans son EHPAD, il y a une réduction de personnel. Comment est-ce possible d'en arriver là? Je considère cela comme de la maltraitance envers les personnes âgées. Au standard, on retrouve Alain qui nous appelle de Bourg-en-Bresse. Bonsoir Alain, on vous écoute.
Oui, bonsoir Stéphane. Oui, moi je vais un petit peu en contre-courant de tout ce que j'ai entendu. Quand bien même j'ai beaucoup de respect et puis je suis solidaire de ce qui a été dit. Mais moi, je fais partie de la tranche des 50-60 ans que vous avez annoncé en début d'émission, Stéphane. Et je crois, moi, que la durée de vie, l'espérance de vie va se réduire, contrairement à ce que semblent dire vos invités. Moi, je crois que les gens qui sont nés dans les années 1930-45, c'est vrai, ils vont être centenaires, mais les gens d'après, moi, en 59, d'autres après, la durée de vie, moi, j'ai bien peur qu'elle se réduise avec le train de vie, ce qui se passe, les conditions de travail, les cancers, les AVC de plus en plus nombreux dans nos entourages. Combien de personnes à 60 ans prennent la retraite et puis prennent un AVC à 61 ? Vous ne pensez pas que ce qui est fait actuellement est respectable, j'admire, mais mettons dans 20 ans par exemple, eh bien on aura moins ce problème-là parce que les gens seront... Il y a quand même une mort, c'est ça, vous voyez ce que je veux dire?
Bon, bah écoutez, ouais, Alain, on n'est que d'un témoignage.
C'est une bonne conclusion.
Philippe de Normandie.
Juste pour les chiffres, 350 centenaires en 1950, 21 000 aujourd'hui en 2060, entre 250 000 voilà. Et 500 50 000 centenaires. Juste
200 000, voilà. 200 000 d'ici 50 ans, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Philippe de Normandie.
Après le pour aller dans le sens du monsieur, il y a pour la première fois... on a vu s'arrêter, voire même un tout petit peu régresser, l'espérance de vie chez les femmes en raison d'un certain nombre d'addictions, et notamment tabac, alcool ou d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a, vous posez une question, monsieur, il y a un vrai sujet de prévention. Il n'en reste pas moins que quand même toutes les études montrent, et heureusement, qu'on va continuer à pouvoir vieillir, qu'on va continuer à pouvoir vieillir en bonne santé, qu'il faut probablement qu'on réfléchisse. Quand on dit bonne santé, c'est faire en sorte qu'on s'occupe également de soi-même. Et c'est un sujet, certes, de société, mais c'est un sujet également individuel. Et c'est en fonction également de ce que l'on veut, et de la façon avec laquelle on s'occupe à la fois de son corps et de son esprit, qu'on est capable de bien vieillir. En tout cas, ça a une influence forte. Là, encore beaucoup de travaux le montrent.
Juste c'est pourquoi bien vieillir? En fait, voilà. En fait, vieillir, c'est pas juste vieillir pour battre un record. C'est qu'est-ce que je vais faire de mes années supplémentaires? Donner de la vie à ces années, en quelque sorte. Valoriser ces années. Qu'est-ce que j'en fais? Si j'ai du sens à ce que j'en fais, ben, en fin de compte, d'une certaine manière, j'ai envie de vivre plus longtemps.
Alors, rapidement, malheureusement, 15 secondes, on n'a pas eu le temps d'aborder un vrai sujet aussi, c'est celui des aidants familiaux. Aujourd'hui, ils sont 8 millions en France. Il n'y a pas de statut. Est-ce qu'un jour, on va avoir un statut des aidants familiaux?
Alors, pour la première fois, il y a une loi, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a reconnu le rôle de ces aidants, et c'est absolument un enjeu majeur, parce que ces personnes-là nous font gagner aussi 164 milliards d'euros si on devait les payer. Ce sont des gens qui ont un rôle majeur 20 heures par semaine à accompagner d'autres personnes. La moitié d'entre eux travaillent encore, donc les entreprises seront aussi au premier rang autour de cela.
Merci à tous, on arrive au terme de cette émission. Il est 20 heures, vous écoutez France Inter.